De démarrer ce soir là, on va essayer d'avancer un peu en direction de ce qui est en jeu dans le savoir. En prenant comme appui le rapport à la langue, pour autant que ce qui est en jeu donc dans le transfert, si la psychanalyse est une expérience de discours, c'est le fait que, et là je reprends une des formulations de Lacan, du séminaire encore, l'inconscient, dans la mesure où on ne peut pas dire ce qu'est l'inconscient, évidemment, on parle du réel de l'inconscient. Ce n'est pas que l'être pense, ça c'est ça, je cite de mémoire, mais c'est ça, l'inconscient ce n'est pas que l'être pense, c'est qu'en parlant, ils jouissent. Et qu'ils ne veuillent rien en savoir de plus, c'est-à-dire qu'il ne veut rien en savoir du tout. Le de plus et le du tout sont importants. Ça, c'est la citation. Qu'est-ce que cette dimension de la jouissance qui se différencie bien sûr du principe de plaisir que Lacan dans ce séminaire de 73 aborde plus particulièrement sans oublier évidemment le rapport au corps et le rapport au mystique, et le rapport des mystiques au corps et le rapport au féminin. Vous savez qu'il a écrit ça dans des mathèmes. Et que l'année suivante, le 21 mai ou le 21 avril, dans le séminaire qui suit, qui est Les noms du R, comme ça, comme souvent, je pense les choses importantes, en deux lignes, il fait soudainement une scansion, c'est-à-dire qu'il dit « Jusque-là, j'ai considéré que l'inconscient était lié au fait de parler, était lié à la parole, et maintenant, là où j'en suis, ce qui est important, c'est le rapport entre la parole et l'être sexué. » Alors, il y a effectivement quelque chose qui est présent dans le transfert, qu'on peut qui relève effectivement de quelque chose qui touche à la jouissance, quelque chose qui est plus ou moins développé entre le patient, entre le psychanalyste et le psychanalysant, quelque chose qui est lié au rapport aux mots, au langage, on va dire, et qui, sans doute, et là, je pourrais dire que je m'avance parce que c'est une question qui m'intéresse. Ça rejoint aussi ce que France a essayé d'articuler dans son livre. C'est pas tout à fait pareil, mais enfin, je crois que c'est quelque chose du même ordre. Je pense que d'ailleurs, on en parlera une prochaine fois dans un cadre avec ton livre. On préparera quelque chose pour le mois de dans les mois qui viennent. Hein. Alors du coup, en disant ça, évidemment, c'est parti. Mais ça va revenir en parlant. Il y a quelque chose qui est en jeu en regard du réel de l'inconscient. Donc, de quelque chose qui n'est pas très loin de ce qu'on évoquait la dernière fois dans la discussion, du côté de ce qu'on appelle la raison, mais pas la raison telle qu'on la pense actuellement. Il y a quelque chose qui est donc qui touche à la question de l'inconscient, au réel de l'inconscient, par le biais du réel du corps. Comment s'en approcher ? C'est ça la grande énigme. Comment ce quelque chose peut-il se dire dans le transfert ? Pour autant que c'est quelque chose qui nous conduit évidemment, et là on prolonge Freud avec Lacan, en regard de cette dimension qu'il appelle jouissance supplémentaire à la jouissance phallique, à la fonction phallique, c'est-à-dire au fait que s'il n'y a pas, comme il l'écrit, la femme au sens du grand élabaré, c'est ça que ça veut dire, il n'y a pas la femme, mais évidemment ce n'est pas à prendre au sens commun, ça veut dire que chacune singulièrement à sa façon, c'est, on va dire la part féminine, permet de toucher quelque chose. Alors, est-ce qu'on peut dire du réel de l'inconscient ? Je ne sais pas, mais toucher quelque chose du rapport à ce réel de l'inconscient. Alors, aussi hasardeux que ça puisse paraître, pour aborder cette question ce soir, nous allons partir de ce qui nous, Venise et Paris, par le biais de Casanova. Et du fait que, puisque nous sommes dans une certaine ambiance qui est préparatoire au colloque d'insistance, c'est difficile d'en donner le titre, il y a un titre qui a été donné, mais je pense que ce qui est en jeu derrière ce titre, enfin ça m'apparaît comme ça maintenant, c'est qu'est-ce qui a fait que dans ce pays, la France, il y a eu, à la fin du XVIIIe siècle, quelque chose de tout à fait nouveau, on pourrait dire dans son genre, peut-être même unique en son genre, que l'on appelle la Révolution française, mais qui est unique parce que il y a eu un passage de la Révolution, avec tout ce qu'elle pouvait apporter, à la terreur. Et c'est là que je m'avance, dans quelle mesure et là on sort de toute approche historique, évidemment, parce que c'est pas ça, hein, quand je vous parle d'une expérience de discours, c'est de ça dont il s'agit, et on va essayer d'en parler avec Giacomo Casanova, parlant, lui, c'est-à-dire écrivant à la fin de sa vie, ce qu'il appelle « histoire de ma vie », c'est-à-dire qu'on ne va pas se baser sur ce qu'il a fait, mais sur son rapport à la langue française, il écrit ça en français, tout à fait isolé, à Duchkov, en Tchécoslovaquie. Donc, je trouve qu'il m'apparaît de plus en plus, à moi personnellement, comme question, et qui peut-être est quelque chose qui est sous-jacent à l'enseignement de Lacan, et à ce dont je vous parle, c'est est-ce que et là je m'appuie un peu sur Philippe Solers, est-ce que la révolution, et notamment la terreur, ne serait pas une sanction à ce que l'érotisme, à ce que le catholicisme présent en France et mondialement en Europe au XVIIIe siècle avait de prévalent comme érotisme non dévoilé? Alors, je pense que c'est une vraie question parce que on peut poser la question suivante. Est-ce que si la réforme avait dominé la France, entre autres, ça n'a pas été le cas, cette révolution n'a pas pu avoir lieu en Allemagne, par exemple. Est-ce qu'elle aurait eu lieu? On ne peut pas répondre, mais il me semble qu'il y a tout ce qu'il faut dans cette vraie religion, qui est non seulement le christianisme, mais le catholicisme, pour qu'il y ait des choses comme ça. Il y a quelque chose de tout à fait particulier. Et on peut dire que Robespierre, l'incorruptible, justement, l'infâme, comme l'appelle Nietzsche, un siècle plus tard, est sans doute, on va en parler ce samedi, là, ça va même sortir à certains moments dans les dialogues révolutionnaires, est-ce que Robespierre n'a pas, en fait, à son corps défendant, rétablit quelque chose de l'ordre de l'Ancien Régime par le culte de l'être suprême? Et est-ce que la terreur n'a pas été en quelque sorte théorisée par Sade? Donc vous voyez qu'on est dans quelque chose de tout à fait riche qui se passe en France, notamment c'est en France, en français. On est dans le moment où c'est le français qui est parlé partout, hein. On va dire qu'après la Révolution, une chose qui change, effectivement. Et donc, on touche au rapport à la langue française, plus particulièrement. Et c'est un peu, là on en arrive, par rapport au savoir. Alors, par rapport aussi à cette autre citation qui m'est revenue comme ça de Lacan, il y en a une autre aussi qui m'est revenue, que je voudrais, je ne sais pas du tout comment elles vont s'articuler, si elles vont d'ailleurs, elles vont s'articuler dans ce que je vais dire, mais ce n'est pas le problème, ça vient comme ça, j'essaie de parler comme ça. Il y a quelque chose qui touche effectivement à la dimension du féminin. Plus l'homme prête à la femme... Plus l'homme prête à la femme, non. Oui, c'est du coup le téléphone. Plus l'homme prête à la femme la position de Dieu, ce dont elle jouit, moins il aime. Et je crois que c'est autour de ça que Casanova va, pendant au moins 64 ans, il commence à écrire ses mémoires, ce qu'on appelle ses mémoires, qui sont en fait l'histoire de ma vie. Je vais vous dire pourquoi on appelle ça ses mémoires, à 64 ans. Je crois que c'est autour de ça. Et j'ajouterai encore une chose, c'est que Casanova a trouvé effectivement à Paris, plus particulièrement à Paris, quand il est arrivé en 1750, quelque chose, c'est ce qu'il va dire. Donc, j'en reviens, le point de départ, c'est effectivement Venise et la Renaissance. C'est-à-dire le fait que, à la fin du Moyen-Âge, avec le développement de l'imprimerie, hein, en 1450, quelque chose se met en place, c'est-à-dire que le regard de l'être parlant qui s'est tourné vers le ciel en attendant tout du créateur, progressivement, on pourrait dire, prend une position davantage horizontale, l'opsis, hein, se met en place et la créature est examinée par cet opsis, cette vue, ce regard, et progressivement, dans tous les champs, que ce soit dans le champ scientifique ou dans le champ artistique, quelque chose réapparaît, pour autant que ce qui avait été mis de côté, et notamment les cultures anciennes, grecques notamment, sont réapparues à ce moment-là. Il y a quelque chose de l'ordre d'une renaissance, ça c'est bien connu, c'est quelque chose qui est historique, mais ce qui m'intéresse plus, ce qui nous intéresse plus, c'est comment cette dimension de renaissance pourrait être pensée dans l'après-coup, et derrière ça, en quoi la psychanalyse, c'est-à-dire l'expérience du transfert, qui apparaît à la fin du 19e, aurait à faire avec quelque chose qui aurait eu lieu, on va dire qui aura eu lieu, non reconnu, voire sanctionné, et qui pourrait reprendre certains éléments qui sont en jeu, pour autant que ce qui nous intéresse, c'est donc le rapport au langage, et non pas le rapport au fait qu'il y a eu tel ou tel fait à tel ou tel moment. C'est comment ce quelque chose qui a eu lieu, non pas est pensé, ça c'est pas le problème, vous savez bien que c'est pas ça qui est important, c'est comment c'est mis en mots, comment c'est traduit poétiquement ou autrement. C'est ça. Donc, en ce qui concerne Casanova, ce qui nous intéresse, c'est effectivement le fait que à 64 ans, c'est pas n'importe quelle année, c'est 1789, il se retire à Duchkov, en Tchécoslovaquie, c'est pas très loin de Prague, parce que depuis quelques années, il a accepté d'être le bibliothécaire du comte Waldstein, qui est un château, et il ne va pas très bien, ça c'est la raison un peu officielle, et son médecin lui dit que sans doute pourrait le guérir le fait qu'il se mette à écrire. Évidemment, il faut bien penser qu'il écrit sans aucune idée d'être publié. C'est, comme il va le dire, membre de l'univers, je m'adresse à l'air. Là, le psychanalyste, il entend vraiment l'air, les noms du père. Je m'adresse à l'air et je prends plaisir, même il va dire je jouis, là où j'ai déjà joui, mais surtout là où je n'ai pas eu de jouissance. Il y a quelque chose d'emblée qui est situé. Et, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, ce qui est important, c'est qu'il va dire que, dans la préface, il s'adresse au lecteur en disant que je suis non seulement monothéiste, mais chrétien, fortifié par la philosophie qui n'a jamais rien gâché. Ça, c'est une citation. Donc, comment, au 18e, quelque chose de cet ordre, on a parlé de la théorie des ensembles, c'est-à-dire des objets complètement différents qui pouvaient être dans un ensemble, et que là, il y a quelque chose qui, dans notre civilisation actuelle, ne peut pas aller. C'est-à-dire, on est dans une civilisation, on en parlait en venant avec Claude, le Mahomet Voltaire, qui a été présenté en son temps, ne pourrait pas être joué actuellement, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui fait qu'au 18e, c'est ça la vraie question, qu'est-ce qui fait qu'au 18e, il y a quelque chose qui peut non seulement avoir lieu socialement, mais qui tient certaines personnes. Et bien sûr, c'est trop facile de dire que la révolution, ça va être parce qu'il y a eu, quelque chose qui est de l'ordre d'un libertinage excessif ou d'une trop grande inégalité. C'est vrai. Mais c'est pas la piste que l'on suit. Alors, Je vais revenir sur Casanova parce que ce 18e, effectivement, qui va donc se terminer, comme on sait, par la terreur, c'est en France, et c'est ça qui nous intéresse, on pourrait dire quasiment en Europe aussi, si on se base sur la langue, puisque la langue, j'insiste, c'est le français en Europe, essentiellement, c'est ça. Hein. Si, ce que dit Casanova, je ne sais plus à quel moment, si vous parlez français, si vous avez une lettre de recommandation et que vous avez des bagages cossus, vous pouvez aller n'importe où. Pour montrer le pouvoir de la langue française à ce moment-là, c'est quelque chose de tout à fait important, ce qui explique que Voltaire pourrait correspondre avec toutes sortes de despotes ou de monarques étrangers, enfin bref. Que la France est intervenue au moment de la Révolution en Amérique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été possibles à ce moment-là. Bon, je reviens. Alors, il faut que je revienne effectivement pour dire un mot sur Casanova et sur Venise et sur Rome, puisque vous voyez, tout est lié. Il y a le catholicisme derrière tout ça. Et sur, bien sûr, la contre-réforme, c'est-à-dire une certaine jouissance qui est liée au baroque. Parce que c'est ça un peu qui est en jeu dans toute cette affaire-là. Donc, le 2 avril 1725, un garçon, Giacomo Casanova, naît à Venise. Venise, à ce moment-là, sur un plan militaire et économique, et plutôt sur le versant du déclin, mais a encore un grand pouvoir, une grande renommée artistique. Je voudrais simplement vous faire un peu percevoir la différence, et peut-être, et même sans doute, ce qu'on peut percevoir à Venise quand on y va encore. Venise, bien sûr, est administrée depuis 777, je crois, ou 727. C'est une république, donc ça nous intéresse, puisque justement, c'est ça l'enjeu de la Révolution française. C'est une république, c'est la République de Venise. Elle est administrée par un doge qui a un pouvoir exécutif et judiciaire, le pouvoir législatif étant administré par une assemblée, je crois, d'une quarantaine de patriciens ou de familles, de nobles. Et ce qui est surtout important, c'est la façon dont le divin, on en a parlé la dernière fois, le divin vénitien n'est pas analogue au divin romain. Autrement dit, le divin vénitien est plus proche de quelque chose qui nous ramènerait aux Grecs. Alors, il y a bien sûr le fait que Venise se trouve dans cette articulation entre l'Orient et l'Occident, c'est sûr, il y a toute une histoire. Mais il y a aussi quelque chose qui fait penser que, même si le catholicisme y règne, malgré tout, une certaine liberté existe. La preuve, c'est qu'un prêtre roux que vous connaissez tous, c'est Antonio Vivaldi, vit avec une cantatrice française. Tout ça, c'est très connu. Il a une musique où on sent la liberté extraordinaire. Que Monteverdi, qui s'est lancé dans l'opéra, va finir dans les ordres alors qu'il écrit un opéra profane. Tout ça pour montrer qu'il y a quelque chose dans Venise, de particulier, et qu'au XVIe siècle, à deux reprises, le pape est intervenu en sanctionnant Venise, en interdisant les offices, parce que les Vénitiens, la République de Venise, et le catholicisme Venise, les inquisiteurs qui y sont, n'avaient pas fait mourir les sorcières. C'est-à-dire qu'ils sont contre, la façon dont ça se passe ailleurs au niveau de la répression et de la mise à mort. Tout ça pour montrer que... Et puis bien sûr, il y a Venise, Vénus, il y a quelque chose qui fait que le divin vénitien est très proche, et très articulé aux déesses et à la Vierge Marie. Il y a quelque chose à Venise qui est présent, qui se développe. Et le peintre sacré Bellini, qui a commencé depuis quelques années, au XVIe siècle, Et on arrive bien sûr à d'autres peintres en ce XVIIIe siècle qui font que il y a, et je vous ai mis au tableau, le fait que est écrit dans la topographie de Venise quasiment la bande de Mébius. Ou si vous voulez, la façon dont en mathématiques on écrit le signe infini. C'est-à-dire que tout se passe comme si déjà quasiment était écrit au niveau de cette république quelque chose qui fait qu'il n'y a pas de frontière entre le sacré et le profane. C'est ça la richesse. Et Casanova vient de là. Et en fait, une des hypothèses, ce serait que ce qui va le conduire à écrire, ce n'est pas tellement qu'il est malade, mais comme il va dire, il faut qu'il rende compte au maître, à un maître, de ce qu'il a rencontré dans sa vie. C'est ça qu'il va dire. Oui, il est quasiment... Il est dans la position d'analysant. Et c'est une évidence. Il est dans la position d'analysant avant la lettre. Pour situer les choses aussi, il importe de remarquer que Casanova... Alors, je fais un peu des allers-retours dans tous les sens, mais pourquoi pas. Quand il écrit, parce que je crois qu'on justement, on peut pas tellement dissocier, j'essaie de bien m'articuler, pas du tout à ce qu'il a fait. Bien sûr, si ça vous intéresse, c'est passionnant de lire ce qu'il a. Il y a trois volumes, c'est Histoire de ma vie. Mais il faut comprendre, il faut saisir comment Histoire de ma vie, qu'il a donc écrit de 1789 à 1798, quand il est mort, c'est pas la totalité, il s'est arrêté parce qu'il est mort, a été confié à quelqu'un de sa famille. Ce neveu a vendu ses histoires à une maison d'édition allemande, ça a été traduit en allemand, c'est en français, il l'a écrit en français. Et au début du 19e, un professeur de lettres, Jean Laforgue, a traduit de l'allemand au français. Et on ne connaissait cette version-là que jusqu'en 1960. C'est-à-dire que c'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'on a découvert le manuscrit en français. Et quand on compare les deux, on constate effectivement que le style, c'est-à-dire ce qui anime Casanova, n'est pas effectivement ce qui est écrit dans les différentes versions, qui sont, disons, des versions assez censurées par rapport à cette dimension de la jouissance et du rapport au verbe, par exemple. Je ne vais évidemment pas vous raconter beaucoup d'aventures qu'il a eues, parce que c'est assez extraordinaire, vers les années 1700, c'est avant qu'ils soient emprisonnés à Venise, donc c'est vers les années 1754, 55, il a été emprisonné pour raté, il ne savait pas que c'était pour raté, et après il est devenu inquisiteur. Il est passé par toutes les... il pourra dire qu'il sait un peu de quoi il parle à la fin. Bon, mais c'est pas cet aspect véritablement. Eh bien, il a une liaison avec une religieuse d'une grande famille patricienne de Venise, qui est la directrice, qui est l'abbesse du couvent, qui est nommée M.M., et dont on trouvera véritablement l'identité, parce qu'à partir de 1960, évidemment, un certain nombre de personnes qu'on appelle les casanovistes ont voulu vérifier si tout ce qui était raconté était vrai, et tout est vrai, bien sûr, tout est vrai. Et cette M.M., qu'il a connue par l'intermédiaire de C.C., et tout ça se passait dans un couvent XXX, qui fait dire à Solers que ça fait 2300 MMCCXXX, donc 2230, puisque vous savez que Casanova avait un grand rapport avec les chiffres et les lettres, avec ce caballero, ce chevalier, il va se donner le titre de chevalier de Saint-Gall, avait un rapport avec la cabale, avec les chiffres. Il était ni médecin, pourtant il a fait des études de médecine, ni avocat, pourtant il a fait des études de droit, ni prêtre, et pourtant il était destiné à la prêtrise. En fait, il était tous les trois. Et il avait compris très tôt que l'être parlant était pris dans un savoir qui n'était pas le savoir officiel, c'est-à-dire le savoir occulte. Alors c'est de là dont on peut parler. C'est-à-dire que il explique que jusqu'à 8 ans et demi, non seulement il ne se souvient de rien, mais il dit que il ne percevait rien de son corps, il ne pouvait pas penser, il ne pouvait se souvenir de rien. Et sa mère qui courait un peu, qui était comédienne, qui courait un peu les amants et les scènes à droite à gauche, l'avait confié à sa grand-mère, et il se met à avoir un symptôme, c'est-à-dire qu'il se met à avoir des hémorragies assez conséquentes, et sa grand-mère, donc une femme, le conduit à Murano, dans l'île à côté de Venise, voir une autre femme, une sorcière. Et a lieu, à ce moment-là, quelque chose par le biais d'un rituel tout à fait particulier que je peux raconter à peu près de la façon suivante, tel qu'il en parle. Il est placé dans une caisse à l'abri de quelque chose. La sorcière répand des odeurs tout à fait agréables. Elle se met à prononcer des formules qui, évidemment, sont pour lui tout à fait énigmatiques. Elle le prend dans ses bras, elle l'embrasse, il insiste beaucoup là-dessus, elle l'embrasse, et sans doute peut-être aussi, il l'embrasse aussi. Elle le oint d'arômes particulières, et surtout, elle lui dit ceci: tu ne parleras à personne de ça. Et si tu ne parles à personne, dans la nuit qui va venir, une belle dame viendra te voir. Le petit Giacomo rentre chez lui le soir, attendant avec plaisir, on peut au moins dire ça, la nuit qui va venir, et effectivement, une dame lui apparaît, vient le voir, reproduit quelque chose un peu d'analogue à ce qui a eu lieu. Ensuite, elle disparaît. À la suite de ça, les hémorragies diminuent, elles ne disparaissent pas. Et comme elles ne disparaissent pas, dans les mois qui vont suivre, la mère qui est revenue et l'abbé qui est attaché à la mère décide de le conduire à Padoue pour changer d'air, parce qu'il pense que en changeant d'air, il va guérir. Et là, il va se passer quelque chose de tout à fait important. Mais là, j'insiste bien, ce qui importe, c'est pas spécialement les faits, c'est la façon dont il en parle, hein, comme sur un divan, hein, dont il en parle. Et il va dire, à un moment, il est dans la barque, ils sont tous dans la barque, et ils sont accompagnés d'un poète libertin, Baffo, un certain Baffo, qui est là, et qui est, lui, qui fait partie des familles patriciennes, nobles, de Venise, mais qui, évidemment, est assez mal vu du fait que les poèmes qu'il fait sont très libertins. Alors, il se passe quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire que Giacomo, qui dit dans ses mémoires, dans l'histoire de ma vie, il dit qu'à la suite de la rencontre avec ce savoir tout à fait particulier qui est lié à quelque chose du réel du corps qu'il a perçu, dans cette expérience avec la sorcière, il se met à penser, la mémoire se développe. Et durant ce voyage, Il est étonné, on comprend qu'il est étonné, parce que jusqu'à maintenant, il ne pouvait pas tellement penser, hein, il parlait pas en plus. Hein. Et il dit à sa mère la chose suivante, « Comment se fait-il que ce sont les arbres qui marchent ?» Il est dans la barque, lui, et il voit les arbres marcher. Et sa mère éclate de rire, l'abbé, évidemment, fait la même chose, il se moque de lui, il n'y a que Bafo qui peut le prendre dans ses bras, sans rien lui dire. Giacomo continue son petit raisonnement, après que sa mère lui a dit « Mais non, ça n'est pas les arbres qui marchent, c'est nous qui marchons, c'est nous qui avançons avec la barque. » Alors, d'emblée, on voit dans quelle mesure s'est développée en lui cette fonction de la raison, dont on parlait la dernière fois. Ce n'est pas l'intelligence, c'est la raison. Il se dit, sans doute à voix basse, « Mais alors, quand je vois dans le ciel le soleil qui va le matin de l'Orient à l'Occident, ce n'est pas ça qui se passe, c'est moi qui vais de l'Occident à l'Orient. » Et il ose dire ça. C'est-à-dire qu'il énonce la règle qui avait conduit Galilée à la condamnation, c'est-à-dire que c'est effectivement la Terre qui tourne autour du Soleil et non pas l'inverse. Et évidemment, quand il énonce ça, à nouveau, la mère et l'abbé se moquent de lui, et à ce moment-là, là je le cite, Bafo lui dit « Ne crains rien, mon enfant, il insiste beaucoup sur ce mon enfant, tu as raison. Continue à penser ainsi et laisse rire. » Et il l'embrasse. Et on pourrait dire que toute sa vie, en fait, chaque fois qu'il va rencontrer une situation, notamment au niveau des sociétés qu'il va rencontrer, des différentes cours qu'il va rencontrer, notamment à Paris, où il va rencontrer une situation où quelqu'un comme par exemple Rousseau aurait été humilié, lui, au contraire, va prendre enseignement de ce qui se passe. La preuve, il se trouve à l'opéra, je pense que c'est le deuxième séjour à Paris, c'est-à-dire entre une fois qu'il est sorti de la prison de Venise des plombs, entre 55 et 57, il se trouve à l'opéra et il a encore un accent, un petit accent particulier. Puis évidemment, il fait comme tout celui qui n'est pas complètement dans la langue, il fait des lapsus, quoi. Alors il ne devait pas faire très chaud ce jour-là à l'opéra. Et il parle avec ceux qui sont à côté de lui, il parle des fenêtres. Et il explique qu'à Venise, alors il va à Venise, il dit « Moi j'ai l'habitude, pour ne pas avoir froid, que les fenêtres soient calfoutrées. » Rire évidemment de toute l'assistance qui est autour de lui. Il est bien engagé, il est en rapport à ce moment-là avec la société française qui est proche de Louis XV, à tel point qu'on lui demande mais d'où venez-vous pour avoir un tel accent ? Et il dit « Je viens de Venise ». Et à ce moment-là, Madame de Pompadour, ex-poisson, qui n'est pas loin, lui dit « De Venise ? De là-bas ?» Et il répond « Non, Madame ». Ce n'est pas là-bas, c'est là-haut. Et il y a en permanence des petits mots d'esprit comme ça. Et à partir de là, comme le dit Solers, Paris est à ses pieds. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Il va entrer comme ça dans un rapport au réel, le sien, par le biais du réel de l'autre, nous dirions ça, de façon assez extraordinaire. Dans cette délicatesse-là, et même les femmes avec lesquelles il aura eu les plus grandes difficultés, et notamment avec qui il aura récupéré la vérole, il leur enverra des fleurs. C'est-à-dire qu'il est en permanence dans quelque chose qui est tout à fait en admiration, pour ça qu'il l'appelle, je pense, Casanova l'admirable, Solers, dans son petit bouquin, il est tout à fait dans une sorte de, on pourrait dire, d'admiration que sans doute il a entendu et vu dans ce regard porté pour lui par cette sorcière qu'il a rencontrée et avec qui il a, et grâce à qui, grâce au savoir de qui, il a découvert ce qu'était le savoir, en quelque sorte, qui était au cœur de l'être parlant. Alors, je vais encore dire un mot. Donc, la perspective, ce qui nous intéresse, on viendra sans doute... Il n'y a pas de séance en février, mais là, en mars, sur Casanova, de façon plus détaillée, sur certains points, parce qu'il a eu des aventures. Il s'est laissé embarquer, notamment avec une Madame Durfé, dans quelque chose que les analystes... Je ne parle pas du passage à l'acte, là, je ne parle pas de ça, mais du rapport au savoir, quelque chose d'extraordinaire. Il explique pourquoi, d'ailleurs. Je crois qu'il avait, à la suite de cette expérience qu'il a connue, il avait quelque chose... Enfin, il a rencontré, et c'est en rapport, bien sûr, avec Venise, je ne saurais pas dire comment, c'est pour ça que j'ai dit un mot de Venise à ce moment-là, et du divin, Venise, parce qu'on pourrait dire que le divin, Venise, est justement ce qui touche à la fois le divin du catholicisme, et le divin profane. Ça c'est évident. Pour ceux qui ont l'habitude ou ceux qui vont à Venise, il y a quelque chose qui se sent dans la meilleure preuve, c'est que, je dirais, à contrario, hein, je ne dis pas du mal des protestants, hein, pas du tout ça, mais quand Sartre y va, il ne supporte pas Venise. Hein, quand Heidegger y va, lui par contre c'est un catholique, mais il ne supporte pas Venise, il faut qu'il s'en aille, il doit partir en Grèce, et pourtant il y a quelque chose de grec d'Hélène à Venise, c'est sûr. Et bien sûr, ça nous ramènera à Dionysos. Il y a quelque chose de cet ordre, la rencontre de Dionysos et d'Apollon. Elle est présente, on pourrait dire, aussi bien dans les lumières que dans le son, que dans... C'est écrit, on pourrait dire, c'est écrit sur le plan de la topographie et de la topologie. Alors, donc, la question qui nous intéresse, c'est... Puisque ce passeur, on peut dire ça, ce passeur qui est Casanova. Je redis encore un mot sur l'importance de la langue pour lui. Donc, à la fin de sa vie, il écrit « Histoire de ma vie » en français. Il vit dans un château en Bohême. Il est entouré par des valets qui parlent allemand. Dès qu'il sort du château, il rencontre des gens qui parlent en patois, c'est à peu près du tchèque. Vous voyez, pour montrer un peu dans quel univers langagier se trouve Casanova au moment où il écrit. Eh bien, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'a trouvé ? Parce qu'il le dit, qu'est-ce qu'a trouvé Casanova à Paris ? Pour autant que, dit-il, c'est Paris qui l'intéresse. Il va faire le tour de l'Europe, bien sûr, mais c'est vraiment Paris qui l'intéresse. Et il va connaître, comme je l'évoquais tout à l'heure, des gens très bien placés. On va lui proposer la nationalité française, il n'en veut pas. Il y est français, il n'y a pas besoin de nationalité française. On pourrait dire, il est non seulement français, mais il est, je ne sais pas comment on pourrait le nommer, mais enfin. Et quand il écrit, pour tout celui qui est écrivain, il essaie de nommer et de renommer quelque chose de ce qu'il a rencontré dans sa vie. C'est pas du tout les mémoires de Saint-Simon, par exemple, qui sont écrites entre 1739, je crois, et 49. Saint-Simon est un observateur, il décrit ce qu'il voit. Casanova, c'est pas du tout ça. Il est dedans. Il décrit quelque chose qui lui-même l'a quelque chose qu'il a rencontré, quelque chose qui le questionne. Et ça nous interroge donc à travers ce qu'il pose comme question et ce qu'il trouve à Paris, le fait que, ce que j'évoquais tout à l'heure, le XVIIIe siècle pourrait être défini comme français en Europe et que la Révolution, et notamment bien sûr la Terreur, parce que c'est ça qui est, advient comme ce qui arrête tout, les arts. Hein, vous savez qu'on change le calendrier, qu'on change la façon de parler, qu'on change tout. Et donc la grande énigme qui nous est posée, en fait, par la Révolution, c'est qu'est-ce qui aura été arrêté de ce quelque chose, de ce réel, on pourrait avancer ça, de ce réel de la jouissance, qui n'est pas la débauche, ça. Dès qu'on dit ça, on est dans un jugement moral, donc on n'a plus rien à dire, hein. De ce rapport au corps qui existait évidemment, qui faisait que les femmes, à Venise alors là particulièrement, hein, à côté de ça, en Autriche, une femme ne pouvait pas se promener le soir en ville, elle était immédiatement ramassée, sauf si elle avait un chapelet dans les mains. L'impératrice Marie-Thérèse avait émis un décret interdisant aux femmes de sortir, pour montrer un peu les différences qui fonctionnaient. Donc c'est un peu ça que je voulais un petit peu apporter à la discussion ce soir.